pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
À Marseille, on appelle ces épisodes extrêmes des Everest de violence. De l'extérieur, on se croirait dans un épisode de Narcos, la série sur le cartel de la drogue de Pablo Escobar. Sauf que c'est dans le sud de la France et que ce sont des règlements de compte en pleine rue, des assassinats à la Kalachnikov qui se multiplient depuis quelques années dans les cités de la ville, en particulier dans le 13e arrondissement, au nord de Marseille. 29 morts en 2016, 14 en 2017 et déjà 6 depuis le début de l'année. Le narco-banditisme écrit une chronique sanglante de la ville dans l'impuissance générale. Comme dans les séries télé ou dans les films, comme dans Le Parrain, mais aussi, hélas, comme dans la vraie vie, l'enjeu, c'est bien sûr le contrôle du trafic de stupéfiants, un commerce illégal mais très lucratif qui, ne l'oubliez pas, entre désormais dans le calcul du PIB de la France. À Marseille, plusieurs camps s'affrontent et s'entretuent depuis maintenant des générations. La bande des Blacks contre celle des Gitans, le camp des Remadnia contre celui des Bérébou, allié à la famille Tyr. Une guerre d'alliance et d'influence où on tue pour garder son territoire, on riposte en représailles et si on n'arrive pas à avoir le caïd, on vise en dessous dans la hiérarchie. La violence est extrême, les rafales de Kalachnikov arrosent généreusement tout autour de leur cible et évidemment, les victimes collatérales de balles perdues ne sont pas rares. D'un côté, pour tenter de mettre un terme aux affrontements entre bandes rivales, la police déploie les grands moyens. Des brigades patrouillent sur le terrain et des opérations plus discrètes de la police judiciaire sont organisées, qui participent à empêcher certains meurtres, mais pas tous. De l'autre, les familles des victimes, souvent tenues pour responsables de leur sort, voient rarement les coupables de ces crimes arrêtés. Enfin, il reste ceux qui restent, les autres jeunes, qui voient leurs amis tomber, impuissants, marqués à vie par cette violence endémique. Aujourd'hui donc, ceux qui restent, une mère et un copain, racontent comment et pourquoi on meurt dans les règlements de compte à Marseille. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un récit de Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Valérie, j'habite la région marseillaise. J'ai 53 ans. Le 1er février 2015, mon fils a été abattu lors d'un règlement de compte. Il se prénomme Anthony. J'ai élevé Anthony seul durant 17 ans. J'ai toujours fait des heures de ménage pour l'élever. Anthony était un enfant travailleur. À 17 ans déjà, il avait un CDD dans le bâtiment, il était façadier. Passé quelques années, il a travaillé pour une grande société aérienne en tant qu'intérim. Durant 18 mois, on lui avait promis un CDI. Il adorait ce travail, donc il faisait des projets par rapport à ça. Et suite en fait à cette grosse déception, où il n'a pas eu du tout de contrat, ni lui, ni les 40 autres intérimaires. C'est à ce moment-là que les choses ont un petit peu changé dans son comportement, où il a été un petit peu déçu du système d'emploi. Quelques années après, il commençait à avoir de mauvaises fréquentations. Et puis un jour, il a rencontré réellement le gros caïd. Il était souvent avec lui. Bon, il a été beaucoup appâté par les grands restaurants, les bateaux, les belles voitures, les belles choses. Anthony ne faisait rien à ce moment-là, et puis bon, progressivement, on lui a demandé de rendre des services, chose qu'il a faite. Et puis bon, après, progressivement, il est tombé là-dedans, sans même que moi je puisse me rendre compte réellement de l'intensité de la chose. Je ne pensais pas du tout qu'Anthony en arriverait à s'occuper de la cocaïne. J'avais toujours mis en garde Anthony sur le fait de prendre de la drogue et encore plus de la vendre. Donc il a pris ce chemin. Anthony a à peu près 22 ans, entre 22 et 23. Je ne m'en rends pas compte d'un coup, bien sûr. Je commence à avoir des doutes de plus en plus, donc je fouille la chambre, je vois qu'il y a de l'argent. Il ne touchait même pas le RSA, donc il n'en avait même pas fait la demande. Il ne rentrait pas la nuit, il dormait la journée. Et je comprends qu'Anthony, en fait, est rentré dans un trafic de drogue. Lorsque je lui posais la question, il ne me mentait pas. Il me disait même des noms. Je sais qu'à un moment donné, il était intermédiaire pour faire passer de la drogue d'un endroit jusqu'en Corse. Mais sûr, il ne me disait pas tout. Pourtant, j'ai essayé l'autorité, j'ai essayé la douceur, j'ai essayé la gentillesse. J'ai tout essayé. Bien sûr, il me disait « tu as raison, mais je suis rentrée là-dedans et là, je ne peux plus en sortir. » J'étais complètement désemparée, je ne savais plus comment agir, je ne dormais plus. Il a fallu que j'arrête de travailler, je n'avais plus la force. Et je cherchais jour et nuit quelle solution je pourrais trouver pour lui déclencher quelque chose. J'ai même pensé, à un moment donné, c'est très difficile ce que je vais dire et je regrette de ne pas l'avoir fait, j'ai pensé de le dénoncer à la police, déjà pour le protéger et parce que je n'appréciais pas du tout ce genre de trafic. Mais d'un autre côté, je me suis dit, si je le dénonce, il va aller en prison et toutes les personnes de son entourage qui sont allées en prison, ils sont ressortis encore pire. Voilà quel a été mon doute. Et j'avais tellement peur qu'il sache que c'était sa propre maman qui le dénonçait et quelque part qu'il ne me le pardonne jamais. Et à présent, je me dis, si je l'avais fait, il ne m'aurait peut-être pas pardonné, mais il aurait encore la vie. Ça a duré à peu près 2 ans. 2 ans où, et en plus, je ne pouvais en parler à personne. Parce que d'abord, c'était dangereux d'en parler. Et puis, la peur du jugement. Hein, parce que les gens croient que ça n'arrive qu'aux autres. Et que surtout, c'est l'éducation qui fait qu'un enfant peut mal tourner. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. L'ayant vécu, je lui ai appris les valeurs. Les valeurs de la famille, du respect des autres, du respect de soi-même. Et puis, il a bien vu que toute ma vie, j'ai été honnête. J'ai fait un travail très, très difficile. Je gagnais très peu, bien sûr, mais Anthony n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et lui-même en était très fier. Et puis, je suis arrivée au bout de 2 ans, quand même, à force de lui parler tous les jours. C'est vrai que j'ai eu l'avantage que nous étions très proches, fusionnels. Parce que c'était un brave petit. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il n'a jamais levé la voix. Et j'ai réussi, à force de parler, de lui expliquer les choses qui ne prenaient pas le bon chemin. J'ai réussi les derniers mois à le convaincre d'arrêter tout ça. Et donc, 4 mois avant son départ, il m'a dit, voilà maman, j'arrête tout. J'ai compris tout ce que tu m'as dit, tu avais raison, ça ne m'apporte que des ennuis, je ne dors plus la nuit. Il a refait tous ses papiers, il s'est mis à la recherche d'emploi. Et malheureusement, c'était trop tard. Anthony savait très bien qu'il avait un contrat sur le dos. Moi, je l'ai su parce que j'ai trouvé une lettre d'Anthony où il me disait qu'il allait lui arriver quelque chose. Je n'ai jamais parlé de cette lettre à Anthony. Je n'ai jamais dit que je l'avais trouvée. Je l'ai trouvée au mois de juin, donc 6 mois avant son assassinat. Alors, il m'écrit, « Ment. Si tu lis ce mot, c'est que malheureusement, je ne ferai plus partie de ce monde. » Il est 4 heures du matin et nous sommes le 23 mai 2014. Ce que je tenais à te dire, c'est que j'ai pris un chemin qui n'était pas forcément le bon. Et mes bêtises m'ont coûté la vie. Malgré tout, je ne regrette vraiment rien parce que j'en aurais fini de toute façon. Un jour ou l'autre. Il ne faut pas culpabiliser et ce n'est pas de ta faute ni la faute de personne, mais uniquement de moi. Dans tous les cas, dis-toi bien que je serai toujours là à tes côtés et nous nous reverrons dans l'autre monde. J'en suis sûre, maman. J'aimerais sincèrement que tu tiennes vraiment le coup pour moi, même si je sais que ce ne sera pas facile. Je te demande de faire attention à certains de mes amis. J'ai été vraiment fière de toi et j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une maman comme toi. Tu m'as tout donné, mais dans la vie, on est comme on est et il faut l'accepter. Anthony est décédé donc le 1er février 2015 aux environs de 21h30. J'ai reçu un coup de fil de ses amis qui hurlaient, qui croyaient que je le savais, qui hurlaient au téléphone en me disant que où était Anthony, où était son corps. J'ai demandé, j'ai dit mais tu me parles de quoi tu... J'ai eu Anthony il y a une heure au téléphone, il est venu cet après-midi, il m'a emmené du linge à laver, on s'est embrassé, heureusement, j'ai eu ce cadeau, on s'est embrassé, on s'est serré dans les bras, il m'a taquiné. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était vrai. Donc je me suis vite rendue sur les lieux. Tous ses amis étaient là, tout le monde était là, j'ai été la dernière prévenue. Personne de la police n'a... penser à me prévenir alors que c'était déjà dit dans les réseaux sociaux, tout le monde était au courant. Pas un seul policier ne m'a parlé, pas un seul représentant de l'ordre. J'ai fait des malaises, j'ai hurlé, j'étais dans un autre monde. Et à ce moment-là, le monde s'est figé et le monde... La vie n'a jamais repris son cours, jamais. Depuis 37 mois et 21 jours. Anthony avait 25 ans et demi. Il a été tué par balle et il a reçu 32 impacts dans le corps de Kalachnikov. La commissariat central de Marseille m'a contacté, la brigade de la criminalité m'a contacté en me disant qu'ils allaient venir perquisitionner à 6h du matin. Donc bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Je n'ai absolument rien caché de ce que je savais que faisait Anthony. Mais j'ai très vite compris que les règlements de compte, en fait, ça ne les intéresse pas vraiment. Entre guillemets, on se dit ils font le travail à la place des policiers, ils se tuent entre eux, ça va très bien. Donc j'enquête moi-même au risque de ma vie, parce que ma vie n'a plus d'importance. J'ai mis des mois à me renseigner, tout en étant bien sûr discrète, pour ne pas mettre des personnes en danger, des personnes qui me renseignaient. Et dernièrement, j'ai appris qui en fait avait commandité le meurtre d'Anthony. Et en fait, ça n'était pas pour atteindre Anthony. C'était pour atteindre un caïd de Marseille, en fait. Voilà. Alors, ce qui se passe maintenant à Marseille, c'est que quand on ne peut pas atteindre un caïd, soit parce qu'il est emprisonné, soit parce que il est très entouré, on atteint en fait les proches de cette personne. On les tue. Et c'est d'autant plus difficile, d'autant plus difficile. Surtout qu'Anthony avait tout préparé depuis des mois pour quitter ce monde-là, parce que c'est vraiment, on peut appeler ça un monde. Pour Anthony, c'est trop tard. Mais pour les jeunes qui ont des difficultés pour s'insérer dans le monde du travail, pour eux, ce n'est pas trop tard. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Caïs, j'ai 26 ans. J'ai grandi dans un des quartiers de Marseille, c'est aussi des quartiers nord. J'ai un grand frère, un petit frère et deux petites sœurs. Ma mère est une mère au foyer. Mon père, j'ai pas eu vraiment la chance de grandir avec lui parce qu'il est parti de la maison à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai pour profession éducateur. Voilà. Comme dans presque énormément de quartiers, le réseau était présent aussi dans mon quartier. Que ce soit vente de shit au début, après c'est passé à la cocaïne, après puis l'héroïne. Le réseau de drogue te suit avec ton quotidien, que tu veuilles l'accepter ou l'oublier, tu as quand même ce réseau qui te rappelle que tu es dans le quartier, que tu es, limite que tu es dans son quartier. Tu dois t'adapter en fonction de lui. Et là, le réseau de drogue, je le considère comme une personne. C'est-à-dire, mon ombre, je pourrais le comparer à lui. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas à être méfiant de mon ombre, parce que je sais qui je suis. Mais méfiant d'une personne qui me suit sans cesse, oui, je le suis. Et cette peur-là, c'est ce qui a fait que je ne rentre pas dedans. J'ai pas cédé à la tentation. Pour moi, ce qui a fait que je sois en retrait par rapport à ça, c'est vraiment le lien que j'ai avec ma mère. C'est cette confiance qu'elle m'a donnée indirectement. C'est parce qu'à l'âge de 12 ans, je m'occupais de tout ce qui était administratif. À 12 ans, j'étais confronté à discuter avec les services sociaux. Et je me suis dit non. Caïs, tu as beaucoup trop de choses derrière le dos à gérer. Et du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas gâcher tout ça. Donc, ça m'a contenu. J'ai grandi avec 2-3 potes. Où il y a eu un pote qui a décidé de guetter, quoi. Petit ange. Lui, m'a confié petit à petit qui rencontrait des difficultés et qui voulait commencer à guetter. Petit ange, c'est vrai que il avait ses parents, père et mère, mais ses problèmes et sa fragilité étaient autre part. Il était en manque de confiance, pas très bon à l'école, il détestait la vie en collectivité, il n'aimait pas trop le monde, et ce qu'il voulait c'était se démarquer et avoir son autonomie très tôt. Voilà, pour lui c'était banal, et le petit ange, voilà, il avait fait ce choix, et voilà après. C'est un ami d'enfance avec lequel j'ai grandi. On restait souvent ensemble à la récréation de l'école. On s'amusait, on faisait 2-3 conneries ensemble. On branchait 2-3 meufs ensemble. On se vannait, mais voilà, celui qui me touchait, il défendait. Celui qui le touchait, je défendais. On mangeait souvent dehors des prunes. On nous disait tellement, allez-y au pic de l'étoile. Il y a plein de fruits, des raisins, des abricots, des prunes, des mûres. Et nous, on était à fond, quoi. Mais voilà, le pic de l'étoile de notre quartier, c'était à 45 minutes à pied. Donc du coup, on y allait le matin à 9h, 10h. On y allait. C'était notre balade, notre petite randonnée, tranquillement. Et le pic de l'étoile, c'est un endroit où il y a plein de maisons. Et ils avaient des arbres avec des fruits qui dépassaient. Et nous, on escaladait le mur pour piquer ces fruits-là. Et du coup, pour nous, c'était trop rigolo. En même temps, c'était excitant parce qu'il y avait de l'adrénaline et tout. Mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, on lève la tête au ciel et on voit des avions de chasse traverser. Et d'un coup, on a le cœur qui bat à 3000. On commence à courir. Parce qu'on pensait que les avions venaient pour nous, quoi. Très beau moment qui me reste marqué. Avec lui, cette complicité. Et voilà, après petit ange, c'est un nom que je lui donne. C'est parce qu'il veillait en quelque sorte à moi comme moi je veillais à lui. Voilà. Si je rappelle mes souvenirs, De ce moment très très fort, je me rappelle, je l'ai croisé à un poste de G qui était de gaieté, et il m'a expliqué que il avait d'autres contacts, il s'est fait des amis, qu'il était bien là où il était, et que c'était son choix, et que il avait des difficultés. Bon, ça m'a attristé parce que c'était vraiment, je le sentais sincère, moi. Et moi, je me suis senti en manque de moyens pour l'aider. J'allais vrai, je pouvais rien lui proposer de mieux. On est resté quand même amis. On se voyait avec ce respect. Caïs, tu vas bien? Ouais, ça va aujourd'hui? Ta famille, ta santé, comment ça va? Ça se passe bien? Ça va, alors écoute, on se dit à la prochaine. Et moi, ma phrase était toujours fais attention à toi. Je finissais la conversation, fais attention à toi. Et lui me répondait, oui, t'inquiète. Tous les jours, c'était ça. Et fur et à mesure des mois qui passent, eh ben les phrases étaient moins longues. Et avec moins d'informations, je sentais que... Même à mon niveau, ouais, à un moment donné, je le considère plus comme un de mes potes, quoi. Il a son équipe et c'est bon, il a changé, c'est bon, il fait sa vie, je fais ma vie. Bon, voilà, après. Après, ça m'émue de parler de ça, après c'est aussi important, mais je me dis, à chaque fois que je parle de lui, je me dis... Le plus choquant pour moi, c'était de le voir des fois agressif envers ses collègues, soi-disant, ses collègues du réseau. Hein. Il criait, il levait les bras, il les faisait peur. Alors que moi, je savais très bien qu'il n'était pas comme ça. Un jour, je lui ai posé la question, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es méchant avec... avec tes collègues, parce qu'on dit collègues, mais c'est pas des collègues. Il m'a répondu, moi, de toute façon, dans ce milieu, il faut pas être gentil. Il faut sortir les dents. C'est le terme, il faut sortir les dents. Sinon, on te mange dessus. Il commence à gérer carrément l'organisation. C'est-à-dire qu'il a fait tous les postes, quoi. Et arrivé à ce moment-là, les dangers, voilà. C'est encore plus risqué, tu as plus de responsabilités, on compte plus sur toi, il est même sur du recrutement, donc... À l'âge de 17 ans, ça fait beaucoup. Mais une fois qu'il s'est fait une place, je le voyais se faire une place dans ce milieu-là et de se sentir invincible. Alors, petit ange, lui, il est décédé à l'âge de 21 ans. On est venu me voir, on m'a dit, Caïs, tu as appris pour Ange? J'ai dit non. Il est mort hier soir. Comment? Ben, il était au quartier. On lui a dit de monter dans la voiture. Ils l'ont ramené dans un appartement. Ils l'ont tabassé. Et ils ont mis une balle. Ils ont mis une balle à la tête. Ils n'ont pas hésité. Elle a été retrouvée là-bas. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, tout ce que je voulais savoir, moi, c'était la vérité. C'était qui a fait ça. Et dans le quartier, on sait tous. Qui c'est? Mais personne ne veut parler. Personne ne veut agir. Ça me fait vraiment chier de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est eux. Parce que la première année, non, c'est... Tout le monde se cherche, on essaie de savoir. Deuxième année, enquête. Troisième année, après. Quatrième, cinquième année, il y a des noms qui commencent à sortir. Et je pense aussi que la police doit le savoir, mais... ils font rien pour l'instant, en tout cas. Ou ils attendent plus d'éléments, je sais pas. En tout cas, l'enquête n'a rien donné. Dossier classé sans suite. Ça fait un moment, quand même. Et... Le jour que j'ai appris qu'il est parti, ben ça m'a brisé le cœur et je suis ému parce que aujourd'hui il n'existe plus, il n'est plus là. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'était mon rôle de tout vraiment faire pour qu'il puisse sortir de là, ou est-ce que à un moment donné, est-ce que c'est pas aux institutions ou aux associations d'intervenir à ce moment-là, aux services sociaux, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il est trop tard et qu'il n'y a rien qu'à changer. qu'il y a toujours des plus jeunes que je vois dans le quartier. Mais c'est inquiétant, quoi. C'est de se dire aujourd'hui, quand même, en 2018, qu'on n'ait pas de solution. Et j'arrive même à en déduire que tout ça, c'est volontaire et qu'ils font tout pour garder ça dans les quartiers. Et de faire en sorte que on s'entretient entre nous. Parce qu'on est des moins aisés, des familles avec peu de ressources. Peut-être qu'on n'a pas d'importance à leurs yeux. Quand je dis leur, c'est pour moi, c'est système, c'est un tout. Hein. Et qu'on est un peu les déchets de la société. Petit ange, le visage que je garde de lui, c'est le sourire. Vraiment le vrai sourire, sans penser, sans, vraiment un beau regard. Tu sais, quand tu regardes une personne et que à travers son regard, tu ressens rien, tu te dis, mais. Enfin, en tout cas pour moi, je me dis. Il est bien dans sa peau, quoi. Eh ben, c'était ce regard, ces traits de visage étaient purs, nets, sans marque. Son sourire était spontané. Ses remarques étaient aussi pas réfléchies. C'était une complicité. C'était, voilà, c'est ce que je garde de lui en tout cas. Une générosité et un cœur en or. Ouais. Petit ange.
What will you remember of me when I die? Selfishness, my anger, greed, all my lies. Yes, I want you to know that honestly I did try to be better in this life. We shared so many memories that have shaped you and me. Don't you forget them, 'cause then you might not forget me.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, règlement de compte à Marseille. Un reportage de Pascal Pascariello, réalisé par Marie Placet. Merci à Valérie et à Caïs. Merci également à Céline Autin, notre stagiaire. Et c'est Sandrine Chaperon, bien sûr, l'attachée de production des Pieds sur Terre. To enter the world, live it today.